Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Lamia Essemlali. Lamia Essemlali est présidente de l'organisation de défense des océans Sea Shepherd France et co-dirige l'association au niveau mondial. Fondée par le charismatique Paul Watson en 1977, Sea Shepherd s'est fait connaître par sa stratégie d'action directe pour protéger la biodiversité marine.
On a doublé la consommation de poissons sur les 50 dernières années. On est en train de vider la mer. La première machine de régulation du climat, c'est l'océan.
L'association et ses bénévoles passionnés mènent des campagnes partout dans le monde contre les pratiques illégales de pêche et de braconnage et agit pour rendre visibles les crimes environnementaux qui ont lieu en haute mer, comme avec la défense des baleines de l'océan Austral ou plus récemment avec l'opération Dolphin Bycatch dans le golfe de Gascogne.
On essaie surtout de pallier un manque qui vient des pouvoirs publics, des autorités. Il y a un laxisme, un je m'en foutisme, un sentiment d'impunité, une permission qui sont insupportables. Donc ce qu'on fait, c'est vraiment le minimum vital.
Nous avons parlé des océans, de l'état de la vie marine et de ce qui la menace, des modes d'action pour lutter et informer, de radicalité et d'engagement.
À un moment donné, on ne peut pas rester assis et constater... Se contenter de signer des pétitions, en tout cas, moi, ça ne me correspond pas.
Bonjour Lamia.
Bonjour Alexia.
Je voulais d'abord savoir comment t'en étais arrivée là, quel est ton parcours et pourquoi avoir choisi de rejoindre Sea Shepherd.
Alors, c'est vrai que à la base, j'ai toujours aimé les animaux. Je pense que je suis rentrée là-dedans par ça, en fait, depuis toute petite. J'ai toujours ressenti énormément d'empathie pour les animaux. Ensuite, je me suis intéressée à l'écologie naturelle. Hein, quand on s'intéresse à ce qui arrive aux animaux, on se rend compte que la destruction de leur habitat, ça cause énormément de souffrance et de disparition d'espèces. Et puis, je me suis pas forcément orientée directement dans une filière écologique, je me suis un peu perdue en route, entre guillemets, on va dire, puisque j'ai fait des études en marketing.
Comme moi.
Ah ouais. Bon, après, en faisant des stages en entreprise, je me suis assez vite rendu compte que c'était pas du tout un monde pour moi. Donc, j'ai décidé de reprendre des études à l'âge de 24 ans et faire un master en sciences de l'environnement. Parce qu'à l'époque, j'avais approché de grandes ONG, notamment Greenpeace, WWF, pour ne pas les citer, en leur demandant ce qu'il fallait avoir pour être chargé de campagne chez eux, puisqu'à l'époque, pour moi, ça, c'était le Graal. Et on me répondait, ah bon, il faut au minimum un bac plus 5, sinon, c'est pas la peine. Donc, je me suis dit, très bien, je vais reprendre mes études, je vais faire un master en environnement, etc. Et en première année de licence, j'ai rencontré Paul Watson, qui était à Paris. Sea Shepherd n'existait pas en France à l'époque. Il a fait une petite conférence un dimanche. On devait être 30 à 40 personnes à tout casser. Et là, j'ai entendu un discours qui m'a ébranlé, qui m'a touché, pour moi, ça correspondait à ma vérité, ma vision. Mise en mots et puis surtout mise en application. Voilà, il y avait...
C'est le côté... J'imagine qu'il y avait déjà la même forme de radicalité dans son discours.
Mais il est très fidèle à sa vision d'origine. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est que ça ne s'est pas dilué dans le temps. Il n'y a pas eu de compromission. Effectivement, c'est un discours que je pourrais résumer comme étant biocentrique. Le respect de la vie sous toutes ses formes. Et puis, ce qui m'a plu, c'est le côté combatif, en fait. Parce que j'étais fatiguée de la protestation, des lamentations. J'avais besoin d'action. Et là, il y avait la philosophie biocentrée qui respecte la vie sous toutes ses formes et en même temps, l'action. On va au charbon pour empêcher tout ça. On se contente pas de dire...
C'est terrible.
Que c'est atroce. Et ça me correspond davantage. que ce que je pouvais faire avec d'autres associations. Là, j'ai vraiment trouvé chaussure à mon pied, on va dire.
Et donc, t'as commencé dans l'association et t'es...
Bah, en fait, c'est allé très vite et puis de façon très naturelle et sans vraiment calculer ou faire de projection. C'est-à-dire que j'ai été voir Paul à la fin de sa conférence. Je lui ai dit, mais moi, ce que vous dites, ça me parle énormément. J'ai envie de participer. Je connaissais pas Sea Shepherd à l'époque. C'est vraiment très peu connu. Hein. C'était tout petit il y a 15 ans. Hein. Il m'a dit, bah, écoute, si t'as du temps et que t'es prête à risquer ta vie pour une baleine, bah, embarque, viens sur un de nos bateaux. À l'époque, on avait qu'un bateau. Donc, moi, j'avais jamais vu de baleine de ma vie. Mais il y a une chose dont j'étais convaincue, c'est que oui, j'étais prête à risquer ma vie pour elle, pour l'océan. Ça me, voilà, c'était déjà un moteur incroyable. Et donc, quelques mois plus tard, je me suis retrouvée sur le bateau. Première campagne aux Galapagos, puis en Antarctique. Et là, quand on est sur le terrain, il y a une énergie qui se crée, une motivation qui est décuplée. Je suis rentrée en France avec ça. J'étais chargée à bloc. Voilà. Et en même temps, de voir qu'on était au bout du monde, là, dans ce sanctuaire en Antarctique, qui était violé par les Japonais, qui tuaient des baleines illégalement. Et on était tout seuls. C'était... Pour moi, ça a été très frustrant de voir qu'il y avait toute cette motivation, ce courage d'aller au bout du monde face à la flotte baleinière d'une des plus grandes puissances mondiales, quand même, pour protéger un sanctuaire international dont tout le monde se fiche, en fait. Et au final, on n'a pas pu rester sur toute la durée de la saison de chasse parce qu'on n'avait pas l'argent pour le carburant. Et on est rentré au bout de 2 mois, alors que la saison de chasse dure 4 mois. Et on a coupé le chauffage à bord pour rester une semaine de plus et on dormait avec des bouillottes dans nos banquettes. Et je me disais, mais merde, il faut qu'on ait plus de moyens, quoi. Il faut qu'on ait des moyens financiers qui soient un peu à la hauteur de l'enjeu sur lequel on bosse, surtout qu'on est les seuls à le faire.
Et du coup, un des principaux enjeux, ça a été cette question financière.
Alors, bah, effectivement, il y a la question financière qui reste un enjeu aujourd'hui, parce que même si on a plus de bateaux et plus de missions, on est toujours... obligé de faire des sacrifices de mission. On nous appelle un peu partout dans le monde sur des problématiques qui mériteraient qu'on envoie un bateau, qu'on fasse des patrouilles. Et malheureusement, on peut pas être partout. Et on renvoie cette image d'énormes ONG avec une armada et d'énormes moyens, alors qu'en fait, c'est tout petit. Bon, par rapport à une association de quartier, non. Mais par rapport aux grosses ONG internationales, on fait office de mini-pouce. Et en fait, si on arrive à faire autant d'actions, c'est parce qu'on travaille avec 95% de bénévoles et qu'on fait des économies sur tout. Et du coup, voilà, le premier objectif, effectivement, en lançant l'antenne française, c'était de lever des fonds pour que l'association puisse faire davantage de missions. Et puis, c'était aussi forcément de sensibiliser le public sur les enjeux sur lesquels travaille Sea Shepherd. Et c'est vrai qu'à la base, je pensais vraiment que ça allait rester un tout petit truc en France. Hein. Parce que je me suis dit, bon, beaucoup trop radical et activiste pour la France. C'est plutôt un activisme à l'anglo-saxonne, en tout cas sur la question environnementale ou des animaux. Et au final, non, j'ai été assez agréablement surprise de voir qu'il y avait un écho quand même, auprès du grand public et puis même auprès des médias qui n'ont pas forcément toujours été sympathisants, mais en tout cas, plus que ce à quoi je m'attendais.
Et le personnage de Paul Watson, du coup, c'est quelqu'un qui est assez... Il est soit vu comme un héros, soit comme un personnage un peu controversé. C'est quoi sa situation, du coup, aujourd'hui il est résident de... d'où ?
Alors, c'est vrai que Paul peut être un personnage assez clivant, parce qu'il est...
cash, quoi.
Ouais, mais complètement. Il se fiche en plus de ce qu'on peut bien penser de lui. Comment dire ? Il est très charismatique, du coup c'est vrai qu'il a beaucoup focalisé l'attention sur lui, et pourtant c'est pas forcément quelque chose qu'il recherche, parce que il met aussi beaucoup en avant les autres personnes de l'organisation. C'est juste que les médias s'intéressent à lui parce que c'est un très bon orateur, ouais, et qu'il incarne très efficacement la cause, et ça c'est
40 ans, plus de 40 ans maintenant.
Oui, si Shepard a eu 40 ans en 2017. Donc voilà, c'est une force. Et puis bon, c'est vrai que, enfin, moi je suis arrivée dans Sea Shepherd à une époque où Paul était encore sur toutes les campagnes et donc était très très accessible. Donc on a noué aussi des liens d'amitié, une proximité qui fait que je connais bien le personnage en dehors du personnage public et ce qu'il est en tant que personne. À contribuer aussi à me motiver à m'engager dans Sea Shepherd. Parce que humainement, c'est une très belle personne. C'est quelqu'un de très juste et de très inspirant. Pas du tout arrogant ou méprisant comme certains peuvent le dire. Par contre, c'est vrai qu'avec ses ennemis, il mâche pas ses mots et il est très cash. Donc, mais moi ça me dérange pas. Et alors aujourd'hui sa situation, il est aux États-Unis, il avait deux mandats d'arrêt lancés contre lui donc par le Japon et par le Costa Rica sur des affaires complètement saugrenues de braconnage de drones requins et puis pour le Japon c'était conspiration d'abordage en Antarctique. Bon, c'est un truc, c'est unique dans l'histoire d'Interpol, hein, parce qu'il y a eu une notice rouge d'Interpol suite à ça. Le mandat d'arrêt du Costa Rica est tombé. Il reste le mandat d'arrêt du Japon. Donc ça le limite dans ses déplacements. Il pourra éventuellement revenir en France, je pense, sans trop de soucis. Mais c'est le passage de la frontière américaine qui l'inquiète parce que c'est Trump et qu'il a pas trop confiance.
Ouais, j'aurais pas trop confiance
en Trump. Voilà. Donc c'est un peu contraignant parce que du coup, pour le voir, faut aller aux États-Unis.
Et est-ce que c'est un défi particulier de défendre le monde sous-marin dans la mesure où c'est un monde qui est invisible, mm-hmm. les humains, et très peu connu?
C'est un vrai challenge et en fait c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis engagée pour l'océan. Alors évidemment ma rencontre avec Paul a été déterminante, mais il y a quelque chose qui me motive énormément, c'est que j'ai l'impression que c'est une cause extrêmement difficile à défendre. Pas une cause perdue, j'espère pas, mais presque. Justement parce qu'on est complètement déconnecté de l'océan. Et déjà, quand on voit les carnages qu'on est capable de faire sur Terre, il faut imaginer qu'en mer, c'est encore pire. Et parce que sous cette surface d'eau, il se passe tellement de choses, mais on n'en a pas conscience. Et ce qui se passe en mer se passe loin des yeux.
Ce qui se passe en mer reste en mer, globalement, sauf quand vous montrez des choses, quoi.
C'est ça. C'est ça. Il y a une forme d'impunité qui règne en mer, qui est... inimaginable. Et surtout, ce qui est frustrant, c'est qu'en fait, beaucoup d'entre nous, enfin en tout cas pour ceux qui mangent du poisson, ont un impact et sont complices, parfois sans le savoir, du carnage. Parce qu'aujourd'hui, le carnage qui a lieu en mer, c'est pour répondre à une demande en poisson qui est colossale. On a doublé la consommation de poisson sur les 50 dernières années. On est en train de vider la mer. Avec tout ce que ça implique aussi sur les espèces qui sont pas forcément ciblées, c'est-à-dire les prédateurs marins, donc tout ce qui est dauphins, phoques, qui sont en plus considérés comme des compétiteurs par beaucoup de pêcheurs. Et donc voilà.
C'est-à-dire des compétiteurs.
Par exemple le collectif anti-phoques qui s'est monté là dans le nord de la France, qui milite pour que les phoques soient retirés de la liste des espèces protégées, leur argumentaire c'est de dire que les phoques mangent trop de poissons. Donc voilà, les chasseurs de dauphins à Taiji, nous on leur avait proposé de leur racheter un groupe de dauphins qu'ils avaient ramené dans la baie. Ils avaient refusé de nous les vendre parce que ils avaient dit mais vous allez les relâcher. Et nous, notre objectif c'est de zigouiller tout ça parce que c'est des nuisibles en fait. Ils sont considérés comme des nuisibles.
Est-ce que tu peux faire un rapide constat sur aujourd'hui l'état de la biodiversité marine justement et avec l'accélération du changement climatique? Quelles conséquences? On entend souvent en 2048, on aura plus de poissons dans les océans, mais en même temps, c'est quelque chose qui est inimaginable.
Alors, quand on dit en 2048, c'est les scientifiques des Nations Unies qui estiment que si on ne change pas radicalement nos méthodes de pêche, on aura un effondrement donc des pêcheries commerciales d'ici à 2048. Donc, en fait, ça veut dire littéralement la mort de l'océan.
Mais qui dit mort de l'océan ?
Ben, dit mort de l'humanité, évidemment, puisque la première machine de régulation du climat, c'est l'océan. Et quand on dit que c'est l'océan, on parle de la vie marine. Et c'est en ça que c'est important que les gens comprennent que les poissons, bon, outre le fait qu'ils ont une valeur intrinsèque, quand même, sont d'abord et avant tout les ouvriers de cette machinerie qui régule le climat. Et ils sont plus importants et ont bien plus de valeur dans l'océan à remplir ce rôle d'ouvrier que dans l'assiette de n'importe qui. Or, on considère aujourd'hui encore les poissons d'abord et presque uniquement comme de la nourriture ou comme des objets de comment dire de dans des aquariums qu'on va aller voir un peu comme on va au cinéma
ou comme de la nourriture même pour d'autres animaux.
Ah oui, alors après, oui, il y a aussi les poissons qui sont réduits soit en farine, donc pour nourrir les animaux d'élevage, soit pour des pâtés pour chiens, pour chats. Ça, c'est de la pêche minotière qui est faite par d'énormes bateaux-usines. Pareil, hein, c'est un vrai carnage.
Ouais.
Donc c'est pour ça que Paul dit souvent, en fait, quand on mange de la viande, on dévore aussi l'océan. Ouais.
Ouais.
Parce que c'est à peu près 40% de ce qui est pêché qui sert à nourrir les animaux de ferme.
Du coup, dans les différentes menaces, il y a donc évidemment le réchauffement climatique, la pêche industrielle, le braconnage, le plastique.
Oui, le plastique est en passe de devenir peut-être même la première menace sur la vie marine. Pareil, hein, les estimations scientifiques, d'ici à 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Imaginez, d'un côté, on vide, et de l'autre, on remplit avec du plastique. Et pas que du plastique, d'ailleurs, hein, tous nos polluants chimiques, agricoles.
Comment tu arrives à t'expliquer ou ne pas expliquer l'inaction à la fois des entreprises et des pouvoirs publics sur ces sujets ?
Les entreprises, pour la plupart, elles sont dans une logique de profit à court terme. Donc, comme des gens qui sont aux manettes du pouvoir, qui sont censés prendre des décisions politiques essentielles et qui ne le font pas. On se dit, mais eux aussi vivent sur cette planète, leurs enfants vivent sur cette planète. Il y a une forme de déni qui est suicidaire. Et de l'autre côté, il y a une masse de gens qui prend doucement conscience des choses et encore. En plus de ça, entre le moment où il y a une prise de conscience et le moment où cette prise de conscience, elle se traduit par des changements dans le comportement, il y a un laps de temps. Et puis, il y a aussi toutes les fausses bonnes solutions qui nous font perdre énormément de temps, comme la pêche durable, labellisée MSC, Pavillon France et je ne sais quoi.
Est-ce qu'il y a une pêche durable ?
Une pêche de subsistance ? Que ce soit une pêche de subsistance ? À partir du moment où on rentre dans une logique industrielle ? C'est plus durable. Donc, moi, si on pose la question, un monde idéal, c'est un monde sans pêche, parce que je trouve ça cruel. maintenant, je peux entendre que y a des gens pour qui ça peut être essentiel, notamment dans certaines contrées où la terre ne donne pas grand-chose et où, effectivement, les poissons deviennent une source de protéines importante. C'est absolument pas le cas pour l'immense majorité des gens qui mangent du poisson. L'immense majorité des gens qui mangent du poisson pourraient très bien se passer de poisson. Et il est là, le problème.
Et qu'est-ce que tu penses des discours un peu de l'écologie mainstream qui disent qu'on a... Alors, au choix, 2 ans, 3 ans ou 10 ans pour changer le monde, pour changer de paradigme économique.
Je suis d'accord sur le fait qu'on a très peu de temps devant nous. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si il s'agit uniquement d'en rester à trier ses déchets, mettre des ampoules à économie d'énergie ou rouler en vélo, c'est bien, hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est loin d'être suffisant. Ce qu'il faut, c'est une révolution de nos modes de vie. Ça passe par l'assiette, ça c'est sûr, parce que c'est parce qu'on choisit de manger qu'on a le plus gros impact sur la planète. Hein. Mais je pense que ça passera aussi par la lutte, par le combat, parce qu'on est dans un système qui va pas se laisser démanteler comme ça. Ça, c'est sûr.
Et justement, du coup, j'en viens au mode d'action de Sea Shepherd. Vous privilégiez l'action, enfin une action vraiment directe. Et j'imagine qu'on peut vous reprocher souvent une forme de radicalité ou de, je mets des guillemets, mais de violence. Est-ce qu'il y a le choix, en fait?
Ben, déjà, enfin, moi, je les estime absolument pas violents. Je trouve que ce qu'on fait, c'est le minimum vital, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a jamais blessé personne. On intervient contre les actions illégales. Illégales. On va dénoncer, effectivement, et confronter des actions qui peuvent être légales, mais immorales, hein, certaines formes de pêche industrielle, par exemple, qui devraient être interdites aujourd'hui. Mais quand on va intervenir vraiment, c'est que l'action est illégale. Et à ce moment-là, en fait, on essaie surtout de pallier un manque qui vient des pouvoirs publics, des autorités, comme on dit, des autorités compétentes, mais qui s'avèrent être complètement incompétentes sur le sujet. Il y a un laxisme, un je m'en foutisme, un sentiment d'impunité, une permission qui sont insupportables. Donc ce qu'on fait, c'est vraiment le minimum vital. La violence, elle est... je pense dans l'atteinte directe à la vie, mais aussi dans une forme de non-assistance à espèces, à planètes en danger, à générations futures en danger. À un moment donné, on peut pas rester assis et constater, se contenter de signer des pétitions. En tout cas, moi, ça me correspond pas.
Est-ce que tu perçois qu'il y a une évolution justement dans les modes d'action qui sont encouragés par les courants écologistes type Extinction Rebellion ou Deep Green Resistance, tu vois, qui invitent à être quand même assez, enfin, plus radicaux dans l'approche?
Mais je pense qu'on va immanquablement se diriger vers ça, vers des actions de plus en plus coup de poing. Là, tu vois, là, il y a plein de marches pour le climat qui se font, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bien, c'est bien. Ça montre que, voilà, qu'il y a de plus en plus de gens qui se sentent concernés, qui vont marcher, etc. Je pense que c'est bien que ça se fasse aussi pour que tous ceux qui marchent se rendent compte au bout d'un moment qu'en fait, ça suffit pas. Ça suffira pas. Donc, c'est bien de passer par cette étape. Mais imaginez que ça sera suffisant. Je pense que c'est se leurrer un peu.
Et quand on voit aussi le niveau de répression qu'il peut y avoir dès qu'on sort de la manifestation gentille fait de mal à personne, moi c'est des réflexions que j'ai pas mal en ce moment parce que effectivement je suis désespérée. En revanche voilà, je me pose la question de savoir jusqu'où moi je suis capable d'aller.
Plus on va être combatif, plus on va s'éloigner du pacifisme total, et plus le système va se défendre de façon violente. Et en plus, ce système a le monopole de la violence légitime, entre guillemets. Voilà. Donc, l'État peut envoyer des robocops en matraque sur la population. Par contre, l'inverse n'est pas possible. Donc, il va y avoir une répression sans doute de plus en plus violente au fur et à mesure que l'opposition, la rébellion va hausser le ton. Ça, c'est sûr. Je vois pas comment c'est possible autrement. Jusqu'où ça va aller, je sais pas, mais ça peut potentiellement aller très loin. Quand on va atteindre des niveaux où on sera dans des luttes pour les dernières ressources naturelles, quand on sera face à un effondrement écologique, vraiment, je pense que... Bon, moi, j'étais engagée là-dedans avant d'avoir un enfant, et j'ai pas eu besoin d'avoir un enfant pour me sentir concernée, pour avoir envie d'agir, mais maintenant que j'ai un enfant, ça me fait encore plus peur, et je comprends d'autant moins des gens qui sont parents. Comment ne peuvent-ils pas être engagés écologiquement? Je pense que ne pas l'être aujourd'hui... surtout quand on a des enfants, c'est criminel vis-à-vis de ses enfants. A priori, les enfants, ce sont les personnes qu'on aime le plus au monde, ces enfants. Ce qu'on est en train de leur préparer, là, pour demain, c'est l'enfer. Donc, je vois pas comment on peut ne pas mettre toute sa force et toute son énergie à essayer de leur éviter l'enfer.
Et pour revenir alors aux campagnes de Sea Shepherd, comment se décident les missions que vous choisissez?
En fait, en général, on a des remontées d'informations sur des problématiques locales.
Il y a des choses récurrentes, des campagnes récurrentes?
Alors, en général, c'est des campagnes récurrentes. Pourquoi? Parce que on s'attaque à des problématiques qui sont profondes et qui ne se résolvent pas en une campagne de 2 mois. Donc, par exemple, là, on est à Mayotte depuis 2017. On y retourne cet été, c'est la 3e année. Je pense qu'a priori, là, on y est pour 20 ans parce qu'il y a tellement de choses à faire. Là, sur Dolphin Bycatch, on commence sur les dauphins qui sont capturés par les bateaux de pêche. En France, c'est un problème qu'on va pas résoudre en une seule mission. Tu vois, sur les campagnes de chasse en Antarctique, par exemple, on est resté engagé sur le sujet pendant 17 ans. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que les Japonais ne retournent pas en Antarctique parce qu'ils sont sortis de la Commission baleinière internationale. Donc, ils perdent cette pseudo-alibi scientifique qu'ils avaient qui leur permettait d'aller chasser en Antarctique. Donc,
pour dire qu'ils chassaient les baleines en disant que c'était pour de la recherche.
Ouais, voilà. En fait, ils faisaient partie de la Commission baleinière internationale. Et le problème avec ça, c'est que tous les ans, ils faisaient énormément de lobbying en interne pour faire tomber le moratoire sur le commerce international de viande de baleine. Donc ça, ce moratoire, s'il tombe, c'est la fin des baleines. Donc nous, chaque année, c'était un peu le stress. Là, ils en sont sortis parce qu'ils se sont rendus compte que c'était trop compliqué, que le monde n'était pas... on va pas revenir à la chasse baleinière de façon globale, internationale. Hein. Il reste le Japon, l'Islande et la Norvège, quelques îles aussi qui le font, mais ça va pas redevenir un énorme commerce international comme ça a pu être le cas. Du coup, ils en sont sortis. Et alors, ils vont continuer à chasser dans leurs eaux territoriales, malheureusement, mais l'avantage que ça a, c'est que ils chassent plus dans le sanctuaire antarctique et ils ne pourront plus saboter en interne les projets de sanctuaire parce qu'ils ont quand même fait capoter un sanctuaire en Atlantique Sud. C'est vrai que ça a été beaucoup annoncé dans les médias, comme le Japon reprend la chasse commerciale. Le Japon n'a jamais arrêté la chasse commerciale.
Oui, il y a pas mal de malentendus.
Oui, en fait, dans les faits, c'est surtout que le Japon, je pense, voulait sortir de la chasse en Antarctique la tête haute. Et de pas se dire qu'ils avaient plié face à Sea Shepherd.
Question d'honneur.
C'est un pays très très orgueilleux, ouais. Effectivement.
Est-ce que tu peux parler un peu justement de l'opération Dolphin Bycatch? Donc c'est ça se passe dans les zones françaises?
Alors ouais, c'est principalement dans le golfe de Gascogne, même s'il y a des problèmes aussi de capture de marsouins dans le nord de la France. Mais on s'est focalisé sur le golfe de Gascogne parce que c'est là qu'il y a le plus gros carnage. Donc c'est des dauphins qui sont tués par milliers chaque année par des bateaux de pêche, qui pêchent essentiellement le bar, le merlu, le cabillaud. Là, cet été, qu'ils vont partir pêcher le thon un peu plus au large. Et donc, ils capturent des dauphins dans des proportions qui sont...
Donc, en fait, les dauphins se retrouvent dans les filets?
En fait, les dauphins chassent sur les mêmes zones que les poissons proies, les poissons que recherchent les pêcheurs. Et du coup, comme on a des méthodes de pêche qui sont pas du tout sélectives et qui tapent dans le tas avec d'énormes filets qui ratissent la zone, chaque filetteur a le droit de poser 100 km de filet par jour dans le golfe de Gascogne sur une longueur de 15 mètres. Et en plus, il les pose maintenant en forme de labyrinthe. Donc, les animaux qui se prennent dedans n'ont aucune chance de s'en sortir. Donc, c'est un vrai carnage. Et le problème, c'est que, encore une fois, ça se passe en mer, loin des yeux du public. Et en fait, quand on achète du poisson en poissonnerie, qu'on le commande au restaurant, on ne se rend pas forcément compte que dans près de 90% des cas, c'est ça qu'on cautionne. On se rend complice de ça.
Il n'y a pas de poisson durable. Parce qu'en fait, c'est souvent un argument qu'on entend. Ok, moi, je mange du poisson ou même de la viande, mais ça vient d'un petit producteur ou d'un petit pêcheur.
Le petit pêcheur qui a une méthode de pêche sélective, qui pêche pas sur les frayères ou pendant en période de reproduction, etc. Il va pêcher beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de poissons. Donc, ça suffit certainement pas à alimenter toutes nos poissonneries dans toute la France et à répondre à la demande de poissons telle qu'elle est aujourd'hui. Si aujourd'hui, enfin, pour te montrer à quel point on est dans une situation complètement ubuesque, si on suivait les recommandations de l'OMS sur la consommation de poissons par personne, sachant qu'on est 7 milliards hein, et bientôt 10 milliards, en fait, on atteint déjà le double du nombre de poissons qu'il y a dans l'océan.
Ah oui, d'accord.
Donc, voilà. Et le problème, encore une fois, c'est que, bon, effectivement, il y en a qui disent, bon, bah, je mange moins de poissons, etc. Très bien, manger moins de poissons, c'est c'est bien. Mais 7 milliards, voire 10 milliards qui mangent même moins de poissons, c'est toujours trop de poissons. C'est pour ça que ce que je disais, c'est que il y a assez de poissons pour nourrir ceux qui en ont vraiment besoin. Et ceux qui n'en ont pas vraiment besoin. Le meilleur service qu'ils puissent rendre à l'océan, à la planète, au futur de leurs enfants, c'est de laisser ces poissons dans l'océan.
Pour, donc, par exemple, cette mission-là, Dolphin Bycatch, donc, vous avez un, comment ça se passe exactement? Vous avez un bateau qui sort pour.
Ouais, donc, on a un bateau, un grand bateau qui s'appelle le Sam Simon, donc, donc, il y a deux Zodiacs embarqués sur le Sam Simon. On avait un troisième Zodiac qui était mobilisé de façon indépendante sur un autre port. Et l'objectif, c'est de faire des patrouilles de nuit. Donc c'est assez dur parce que c'était en plein hiver en Atlantique, c'est des patrouilles qui durent plusieurs heures pour la petite le petit Zodiac qui était indépendant, c'était des patrouilles de 12 heures en pleine ouais, nuit Ouais, vraiment, faut être accroché quoi. Faut avoir une motivation à en faire. Mais c'est ce qu'on a. Donc on a des gens qui donnent tout en fait. Donc vraiment c'est ça qui est beau et c'est ça qui est fort. Je sais pas, j'en connais pas d'autres qui sont capables de faire ça. Donc voilà, c'est être au cul des bateaux et être là quand ils remontent les filets pour montrer ce qu'il y a dedans.
Faire des images, des photos, des vidéos.
Faire des images, montrer ce qui se passe en mer, donc montrer tout ce qui est caché, puisque un des problèmes, c'est que la France n'impose pas d'observateurs à bord des bateaux de pêche. On sait que ces bateaux prennent des dauphins, on sait qu'ils pêchent dans la zone habitat des dauphins avec des méthodes non sélectives, et il n'y a pas d'observateurs. Parce que eux ne veulent pas en avoir. Et donc, on est tellement permissif en France avec la pêche, on dit ok, très bien, il n'y en aura pas, c'est pas grave. Donc, nous, on est ces observateurs-là. Maintenant, c'est une campagne qui est nouvelle. Donc, on va voir comment on va développer la stratégie. Mais c'est sûr qu'il faut que ça bouge, parce que sinon, il va y avoir une frustration grandissante. Ouais. Donc, on va pas assister non plus comme ça pendant des années d'affilée au massacre des dauphins, de la vie marine dans le golfe de Gascogne.
Et quelle est la... Est-ce que vous avez des discussions, des échanges avec le... Les pêcheurs, est-ce qu'il y a une sorte de mafia de la pêche ?
Ah bah il y a clairement une mafia de la pêche. Après, il y a pêcheurs et pêcheurs. On peut pas mettre tous les pêcheurs dans la même case. Il y a des pêcheurs, par exemple, qui nous ont alertés sur le problème, qui nous ont donné des informations. Il y a
des sortes d'indics.
Bah c'est des gens en fait qui en ont marre de voir ce carnage, quoi. Et qui ont pas envie de pêcher comme ça, qui ont une conscience, qui je pense ont envie que ça s'arrête. Donc voilà. Après, sur ceux qui sont directement concernés, moi je peux pas croire un pêcheur qui fait ça depuis des années, qui dit mais moi ça me fait mal au cœur quand même. Non. En fait, non, dans ces cas-là, tu restes pas là-dedans pendant des années. Tu changes de méthode de pêche ou tu changes de métier. À partir du moment où tu acceptes de faire ça, année après année, tu vois le carnage que tu fais. Enfin, à un moment donné, c'est aussi une question de choix. Et des pêcheurs qui en sont sortis, il y en a, parce qu'ils supportaient plus de travailler comme ça, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient en train de tuer la mer.
Ce qu'on disait avant de commencer à enregistrer, mais c'est en plus, enfin, c'est des dauphins, c'est un des animaux les plus sympathiques. Enfin,
c'est une espèce charismatique.
Ouais.
Et c'est vrai, il y a un gros capital sympathie pour les dauphins. Donc, c'est en ça qu'on appelle ça un peu une espèce parapluie. C'est-à-dire que, en préservant les dauphins, parce que l'opinion publique est plus sensible au sort des dauphins, ça permet aussi de préserver des espèces qui suscitent moins de sympathie, comme les barres, les merlus, les sols, le cabillaud, dont tout le monde se fiche malheureusement. Et donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on dit que sauver les baleines, par exemple, c'est essentiel, parce que si on n'arrive pas à sauver les baleines, on ne sauvera rien d'autre dans l'océan. Voilà, ça va être compliqué de sauver les requins et les thons et les concombres de mer.
Ouais. En France, on est un des pays, ou le pays, je ne sais plus, qui a une des plus grandes zones de pêche. Ça s'appelle
plus grand territoire maritime.
Territoire maritime. Ouais. Parce qu'on est très étendu sur, on a plein de.
Bah, grâce à nos dom-toms, ouais. on est le seul pays qui est présent dans tous les océans du monde. Effectivement, on était deuxième après les États-Unis, on est passé premier. Ça veut dire qu'en matière de responsabilité sur la survie de l'océan, c'est colossal et on est tellement à la ramasse.
Qu'est-ce qu'on peut dire du coup de la gestion de.
Catastrophique, on est vraiment. En fait, c'est ce qui est très énervant, c'est qu'on est en queue de wagon au niveau européen, par exemple. On est tout le temps en train de bloquer les avancées en matière de pêche, de défendre l'intérêt du lobby de la pêche industrielle. Et dans le même temps, on a un gouvernement qui fanfaronne avec un ministre, le ministre de Rugy, par exemple, qui nous explique qu'avec son plan national contre les échouages, qui est une fumisterie, parce qu'il a sorti ses quatre axes de travail. Bon, j'ai bondi sur mon siège en lisant ça. Enfin, vraiment, il prend vraiment les gens pour des cons. Et dans le même temps, il nous explique que l'objectif, c'est de promouvoir le leadership de la France sur le sujet. Arrête. C'est comme si t'as le cancre de la classe qui se lève et qui dit « Bon, pousse-toi, maîtresse, c'est moi qui vais faire cours, c'est moi le meilleur. » Enfin, cette arrogance, elle est vraiment insupportable.
Et toi, tu as des rapports avec certains des pouvoirs publics, ministères ou autres ? Des discussions ?
Non, enfin, on participe à certains comités sur l'océan. C'est pas forcément moi qui y vais, je t'avoue que... ça me file un peu des boutons.
Il y a peut-être d'autres associations qui ont plus... Enfin, je pense à Bloom, notamment, qui a peut-être plus un rôle auprès des politiques.
Il y a du lobbying politique qui peut être fait au niveau européen, au niveau du ministère. Nous, ce qu'on fait, c'est une forme de lobbying aussi, mais c'est différent. C'est de l'extérieur, c'est maintenir une pression médiatique, alerter l'opinion publique... c'est
occuper le terrain, quoi.
Ouais, mettre les problèmes sur la table, les exposer. Ça nous correspond davantage que de faire du lobbying dans les couloirs des ministères. Effectivement, il y en a d'autres qui font ça et c'est très bien. C'est des approches qui sont complémentaires.
Justement, dans le joli monde des ONG, est-ce qu'il y a des conflits entre les causes? La réponse est un peu dans la question.
Oui.
Il y a eu récemment, je crois, quelques histoires avec la Ligue...
Avec la LPO.
Oui.
Mais les ONG, en fait, c'est comme les gens. Il y a de tout là-dedans. Et en fait, moi, quand je suis arrivée dans le milieu associatif, je suis arrivée un peu avec la fleur au fusil en me disant... J'ai rencontré plein de gens qui sont hyper motivés par la cause, qui veulent sauver les animaux, la planète, etc. Et en fait, on se rend compte que le milieu est complètement gangréné par des intérêts personnels, par des égos. Et en fait, c'est surtout le problème, c'est que les gens oublient que les ONG ne sont que des outils, ce sont pas des fins en soi. C'est des outils qui servent une cause qui les dépasse. À partir du moment où une ONG commence à rouler surtout pour sa bosse, au détriment de la cause qu'elle prétend servir, elle commence à faire partie du problème et plus de la solution. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible de l'extérieur. Parce que quand on regarde tout ça de l'extérieur, on se dit qu'effectivement, toutes les ONG qui sont engagées là-dedans, elles luttent dans un but commun, etc. Et en fait, non, pas forcément. Et il y a vraiment des ONG qui malheureusement font partie du problème et pas de la solution. Et on perd énormément de temps et d'énergie à lutter contre ça. Et en même temps, c'est compliqué en fait d'en parler publiquement parce que souvent c'est mal perçu du grand public qui se dit que bon c'est des guéguerres entre assos, etc. Sauf que le problème c'est que comme il y a une omerta là-dessus, ça permet aussi à ces comportements de perdurer parce qu'ils sont dans l'ombre. Et en général, c'est marrant parce que ceux qui affichent justement le plus un discours pacifique, etc., sont ceux qui font des coups en douce en coulisses. Et donc, ouais, nous, on a tapé du poing sur la table sur la question des centres de soins parce que clairement, là, il y a eu un savonnage de planches en bonne et due forme. J'ai eu Alain Bougrain-Dubourg qui m'a appelé au téléphone en me disant « Non, mais les oiseaux marins, c'est pas Sea Shepherd, pas touche. Votre centre de soins, je vais m'arranger pour que vous puissiez pas le faire. » C'est clairement ce qu'il m'a dit, quoi. Mais par contre, voilà, en public, évidemment, il ne dira jamais ça. Nous on sait que du coup on n'a pas eu les autorisations parce qu'ils ont tout fait pour qu'on ne puisse pas les avoir. Donc moi j'ai décidé d'en parler, mais c'est pas possible, enfin, on peut pas laisser faire ce genre de choses. Voilà, donc on verra quand on reviendra à cette histoire de centre de soins, parce que là nous on a voulu créer un centre de soins en urgence au cas où les centres de soins existants étaient débordés par la marée nord. Donc c'était même pas poussez-vous, on fait un centre de soins concurrent. Non, c'est et en plus nous on a donné les adresses des centres de soins existants en disant aux gens, si vous trouvez des oiseaux, vous les envoyez dans ces centres de soins. Et nous en parallèle, on essaye de monter un centre de soins en urgence pour le cas où ceux qui existent sont saturés. Mais même ça a suscité une levée de boucliers. Ah mais complètement. Ouais. Et c'est insupportable. Et alors on disait, oui, mais alors vous, qu'est-ce que vous diriez si il y avait une association qui se mettait à faire de l'anti-braconnage? Mais bienvenue. Mais venez, parce que nous on n'arrive pas à tout gérer, l'océan est trop grand. Donc s'il y en a qui veulent faire de l'anti-braconnage et qui le font bien, mais ce sera la meilleure nouvelle qui soit. Il y a pas d'exclusivité, il y a pas de copyright sur la cause.
Donc, avec tout ça, quel futur t'imagines pour les océans ?
Ouais, je me pose pas beaucoup la question, hein, je t'avoue. Hein. On est vraiment dans l'instant présent. Je pense qu'il vaut mieux rester là-dedans, ouais. Parce que parfois, quand on essaie de se projeter, ça fait peur. Je sais pas quelle va être l'issue de tout ça. C'est mal barré. Il reste une chance parce qu'il y a quand même une forme de résilience et on se rend compte que quand on arrive à protéger de petits espaces, la vie revient. Pas toujours, parce que parfois on atteint des seuils de non-retour et c'est justement ce qu'il faut absolument éviter. Mais il faut qu'on arrive à préserver des poches de biodiversité. Et c'est pour ça que pour nous, le golfe de Gascogne, c'est un objectif essentiel. Il faut qu'on arrive à préserver le golfe de Gascogne. Pour ce qui est de la métropole, en tout cas. En Méditerranée, on a déjà fait un tel carnage. Et le problème, c'est que ça va très, très, très vite. Ça va très vite. Et dans le même temps, la prise de conscience, elle est lente. Et donc, on est dans une course contre la montre.
Il y a un discours sur la prise de conscience qui évolue, mais dans les faits, qui se traduit pas en...
Bah non, regarde, quand on voit les chiffres là, sur la consommation de viande en 2018, ouais. Elle se remet à augmenter. Donc là, tu te dis, mais merde, c'est inquiétant quand même. On se dit, mais est-ce qu'on va y arriver?
Dernière question. Comment est-ce que, avec tous ces combats qui doivent être douloureux et rageants au quotidien, tu arrives à cultiver la joie?
Ben, faudra embarquer sur nos campagnes pour voir comment on se marre quand même, hein. Et heureusement, hein. Ah ouais, non, mais c'est heureusement qu'on arrive à rigoler quand même, parce que sinon, on serait tous complètement dépressifs. D'être unis aussi comme ça dans une cause aussi forte et à vivre des expériences aussi fortes, ça crée une force. Aussi, et qu'on partage. On rencontre des personnes incroyables avec lesquelles il y a des liens qui se créent, qui sont particuliers parce qu'on est un peu. On est un peu dans un. En dehors de. C'est pas vraiment la normalité de tout le monde. On est dans, tout est très très fort, tout est décuplé. Et quand on est en mer sur le terrain. Ce que je disais tout à l'heure, ça recharge les batteries d'une force. C'est comme c'est des shots de vie en concentré. C'est génial et ça donne la force d'avancer. C'est un moteur incroyable. Donc, je pense que vraiment, tant qu'on tiendra debout, on avancera. Et dans la joie et la bonne humeur, malgré les moments difficiles. On n'est pas des déprimés hein, sur les bateaux, loin de là, heureusement.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci beaucoup à Lamia pour notre conversation. Merci à vous tous pour votre écoute et votre soutien. N'hésitez pas à vous tenir informé des actualités et des campagnes de Sea Shepherd en vous connectant sur leurs réseaux sociaux ou leur site internet. Et pour soutenir Présage, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes. Ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belaouel, mixé par Paloma Colombe. À très vite.